Léopold Sacher Masoch, La hyène de la Pousta. Chapitre 1. La tentation. Par une certaine belle journée d'hiver, les grandes dames de qualité, confortablement enveloppées dans leur fourrure de prix, se promenaient dans la Ringstrasse, alors que les pauvres ouvrières, à peine vêtues, tremblaient de froid au sortir de leur mansarde, en se rendant à leur travail et en revenant. Vers le soir, au moment où les étalages des différentes boutiques du Graben resplendissaient de la lumière du gaz, vint à passer une belle jeune fille qui attira les regards des passants, lesquels à l'envi lui lançaient des œillades provocatrices. Cette jeune fille paraissait non seulement pauvre, mais encore en proie à un violent chagrin. Elle semblait avoir conscience de son indigence, déplorer son sort, et être envahie d'une insurmontable désir de luxe, contrastant singulièrement avec les misérables hardes dont elle était couverte, et qui en aucune façon ne pouvait la protéger du froid. Grelottant de tous ses membres, les joues blêmes et transies, les lèvres tirées, elle se tenait devant l'étalage d'un marchand de confection, dont les merveilles lui faisaient battre le cœur de désir, tout comme si elle eût été une dame de qualité. Ses yeux, brûlants et profonds, ne cessaient d'errer tantôt sur de coûteux costumes de soie ou sur des châles de même étoffe, tantôt sur une jupe d'étoffe de dentelle noire ou sur une autre bordée d'hermine surmontée d'une jaquette blanche pour le théâtre. Tandis que la pauvrette contemplait avec surprise toutes ces splendeurs, son pauvre visage se plissa et prit une expression menaçante de haine et d'envie. Puis elle murmura des mots inconnus à l'adresse du Créateur qui fit le monde si beau pour le peupler de malheureux et de misérables. Et cependant, à ce même instant, où le côté diabolique de sa nature presque découragée se faisait jour, elle paraissait encore belle et désirable. Telle était manifestement l'opinion du bel et élégant jeune homme, qui, d'un coup d'œil fortuit, avait surpris son profil et, comme ensorcelé par ses charmes magiques, se tenait auprès d'elle, tout en ayant l'air d'étudier les dernières modes, alors qu'au contraire, toute son attention était concentrée sur son intéressante voisine. Lorsque, enfin, et arrivé dans un endroit sombre et désert, près du clocher de l'hôtel de ville, il souleva son chapeau et la pria de daigner lui permettre de l'accompagner. La belle et étrange jeune fille lui lança un coup d'œil perçant, puis s'éloigna sans mot dire. « Ma prière n'a rien d'offensant, et ce n'est pas de ces propos qu'entendent si fréquemment les femmes de Vienne à cette heure du jour. » fit l'étranger comme il se rapprochait de la jeune fille. « Permettez-moi donc de vous dire, mademoiselle, que la façon dont vous vous teniez tout à l'heure devant les étincelantes toilettes de la boutique du Graben m'a inspiré le plus vif intérêt pour votre personne. » Vous m'avez paru éprise d'un amour passionné pour le luxe et la splendeur, et malgré cela, pauvre, oui, votre bon goût et votre extraordinaire beauté vous font, mademoiselle, supérieure à toutes les princesses et à toutes les comtesses de notre société. Et que vous restiez pauvre me paraît une énigme dont je ne trouve la solution que dans votre honnêteté. Vous avez raison, monsieur, répondit la belle misérablement vêtue. « Oui, je suis pauvre, mais sage. »« Et je suis heureux de l'entendre. Cela augmente encore l'intérêt que vous m'inspirez, » reprit l'étranger. « Et je serais enchanté si vous daignez me permettre de vous fournir ce luxe dont jouissent les femmes riches et les filles tombées. »« Mais comment serait-ce possible ?» dit naïvement la jeune fille. « Les hommes de mon rang se sentent sans retenue à l'égard des femmes de théâtre, » ou encore d'autres méchantes variétés de modernes messalines. Pour elles, ils dissipent leur fortune, deviennent leurs esclaves, parfois même donnent leur vie, en échange de quoi ces femmes se moquent d'eux. Et lorsque ces malheureux sont ruinés, Leurs misérables maîtresses les foulent impitoyablement aux pieds. Bon, je n'ai, quant à moi, aucun goût pour ces sortes de femmes. Mon idéal est simplement de rencontrer une douce et honnête fille du peuple, saine de corps et d'esprit. Mais vous pouvez en ramasser dans la fange où ces créatures se sentent si confortables, fit la pauvre fille d'un ton presque violent. Ah, vous vous méprenez sur mon compte, répondit l'étranger d'un ton calme et distingué. Je vous prie de ne pas pousser plus loin et de me faire la petite faveur de me fournir l'occasion d'apprendre à vous connaître et de prendre vous-même un peu la peine d'entrer dans mes vues et de considérer que vous avez affaire à un homme d'honneur. Voici ma carte. Mon nom est Jules Baron Steinfeld. La jeune fille prit la carte et se tut. Vous ne daignez pas me répondre, dit le baron Steinfeld. J'en causerai à mes parents, répondit-elle. Pour aujourd'hui, qu'il vous suffise d'apprendre que je m'appelle Anna Klauer. Mon père est ouvrier de fabrique, ma mère blanchisseuse et moi-même, je suis gantière. Trouvez-vous demain vers 7 heures-ci au pied de la tour de l'hôtel de ville. Je vous remettrai ma réponse. Là-dessus, elle hocha légèrement la tête et s'éloigna avec la démarche d'une vraie princesse, alors que le baron, baissant son chapeau jusqu'à terre, demeurait cloué à la même place afin de la suivre le plus longtemps possible des yeux. Le jour suivant, le baron fut plus que ponctuel au rendez-vous, mais la belle ouvrière le fit attendre. Comme elle arrivait, il se précipita impatiemment à sa rencontre. Sur ce, la jeune fille se prit à rire involontairement. Elle était flattée de voir un grand seigneur de sa qualité si enflammé pour elle. « Tout mon bonheur, je vous le jure, dit le baron d'un ton ému, est en ce moment suspendu à vos lèvres. Parlez donc, je vous en prie. »« Vous exagérez, fit-elle. » Et aussitôt sa figure prit une expression sérieuse, voire même dure. « Je dis la vérité, Anna, » murmura le baron, saisissant sa pauvre main toute bleue et transie de froid. « Car je vous aime déjà, oui, dès le premier coup d'œil, je vous ai adoré. Mais qu'avez-vous donc? Vos mains sont glacées. Seriez-vous malade? Ne voulez-vous me permettre de protéger vos tendres membres contre la morsure de ce froid cruel? Mais comment cela ? » dit naïvement Anna, alors que le baron, par un détour adroit, la ramenait presque à son insu dans la ville. Ils y rentrèrent. « Et vous ne demanderez rien après, si je me laisse conduire ?» fit en hochant la tête la pauvre jeune fille à l'élégant jeune homme. « Je vous supplie, en grâce, tardez le plus longtemps possible à me faire connaître votre décision, si celle-ci doit me ravir le bonheur céleste que j'avais espéré. » Anna se mit à rire. « Puis-je vous suivre ?» insista le baron. « Mes parents me laissent le soin de répondre à cette question. « Mais alors, puis-je venir ?»« Mais qui vous l'a dit ?»« Vos chers bons et beaux yeux le disent pour vous. »« Oh, mais quels superbes yeux vous possédez là, Anna !» « Oui donc, vous pouvez venir à la condition de promettre de me respecter. »« Sur ma parole de gentilhomme !» s'écria le baron Steinfeld. En même temps, il offrit à Anna son bras, que celle-ci prit alors sans hésitation. En le voyant se promener ouvertement à son côté à travers les rues brillamment éclairées, elle reprit confiance et comprit aussitôt les avantages de sa situation. Car elle sentait bien que cette intimité imposait envers elle au baron des devoirs d'une toute autre nature que ceux qui lient un riche gentilhomme à la maîtresse au pied de laquelle il se jette volontiers dans son boudoir, mais qui ne pourrait consentir à reconnaître en pleine rue. Ce raisonnement était donc en tout point excellent. Mais sur le Graben, un événement se produisit qui déconcerta complètement la pauvre ouvrière. Le baron Steinfeld ouvrit à l'improviste la porte d'un magasin de fourrure, et avant qu'Anna Clower ait bien pu se rendre compte de ce dont il s'agissait, elle se trouva tout à coup au milieu de fourrures princières, d'hermine et de zibeline, et humblement invitée par son compagnon à faire choix d'une d'entre elles. Elle en fut abasourdie, le sang lui monta à la tête et ses oreilles se mirent à tinter comme au son d'un millier de cloches lancées à toute volée. Elle en perdit momentanément l'usage de la parole. Une femme aimable vint à son aide. On apporta une coûteuse jaquette de velours noir garnie et doublée de martre doré. En un clin d'œil, une coquette toque de fourrure orna son humble chevelure noire et frisée, et ses mains furent blotties et protégées dans un épais manchon. Puis morte que vive, elle quitta le magasin et enfin, dans la rue, recouvra la parole. Elle chercha le baron pour le blâmer et le réprimander, mais elle n'y parvint pas. Les fourrures princières avaient dompté son cœur altier. Le baron se rendit compte du changement que son coup de maître avait apporté chez la belle jeune fille. Néanmoins, il fut suffisamment avisé de se contenter pour cette fois de l'accompagner jusqu'à son domicile. Il prit congé d'elle sur un baiser envoyé de la main, et ce fut elle-même qui, avant de monter l'escalier, le fit souvenir de sa promesse de venir lui rendre visite. Le lendemain, un laquais en livrée apporta à la gantière, de la part du baron, une lettre brûlante d'amour accompagnée d'un écrin contenant un bijou de grand prix. Anna fut éblouie, confuse, complètement fascinée, et comme vers le soir le baron va lui rendre visite, elle, jadis si fière, ne put trouver assez de paroles pour exprimer sa reconnaissance. Le jeune gentilhomme ne s'attarda pas longtemps dans le misérable logis des pauvres gens. Il se retira, bientôt suivi de deux valets de pied, qui tirèrent d'un grand panier un souper fin et quelques bouteilles de vin des meilleurs crus, posèrent le tout sur la table et se retirèrent. L'ouvrier et sa femme, la blanchisseuse, firent fête à la bonne chère qui leur tombait ainsi du ciel et vidèrent maintes bouteilles à la santé du baron. Quant à la jeune fille, elle se montra songeuse, presque mélancolique. Elle sentit qu'elle était déjà allée trop loin, qu'elle ne pouvait plus s'arrêter, et soudain l'esprit de cet être hautain, opiniâtre, impérieux, né pour amener les hommes à ses pieds et non pour être leur jouet, fut comme envahi de chagrin et se crut outragé. Le baron prit bien soin d'éviter de remarquer l'étrange humeur d'Anna, et comme on se séparait tant soit peu tard, qu'Anna l'éclairait du haut de l'escalier, il eut le tact exquis d'abaisser son chapeau jusqu'à terre et de se rappeler au bon souvenir de la belle fille de cette façon froide mais polie. Dès que le baron ne parut plus la solliciter, elle se sentit libre et envahie d'émotion. Elle se jeta dans les bras de l'élégant bel homme. Elle le rappela, éteignit la lumière. Puis, dans l'obscurité, elle l'entoura passionnément de ses bras et déposa furtivement sur ses lèvres un baiser plein de volupté féminine. Chapitre 2. Une vieille histoire. Puis, comme une biche épouvantée, elle s'enfuit et remonta les marches. Plus de 2 mois s'étaient écoulés depuis la première rencontre du grand Steinfeld avec Anna Clower, et celui-ci n'était pas encore parvenu à conquérir la belle fille. Cette dernière acceptait avec une joie candide les présents coûteux dont il la comblait et qu'elle semblait amplement lui payer d'un baiser de ses lèvres brûlantes ou d'un serrement de main. Pour son malheur, il arriva que le riche aristocrate, qui parait si magnifiquement sa pauvre victime, dont l'enivrante beauté surpassait maintenant de beaucoup celle de toutes les dames du pays, lui inspirait sans cesse une passion grandissante, mais qu'il eût encore osé adresser à l'objet de son amour la question décisive. Ce n'est pas qu'il admirât tant sa vertu que sa fierté et un certain je ne sais quoi, qui souvent fait que la pire des femmes subjugue l'homme le plus spirituel et lui en impose, tellement que, comme dans le cas du baron, pour la première fois de sa vie, il se trouve engagé dans une histoire d'amour à l'instar de quelque étudiant enthousiaste et inexpérimenté. Contre toute attente, un allié lui survint sur lequel il comptait le moins. Les parents de la jeune fille, sur l'esprit desquels la première visite du baron avait laissé une empreinte d'éblouissement ineffaçable, craignirent ensuite que le dédain d'Anna arrivât à décourager leur distingué visiteur, et cette considération les décida en un clin d'œil à sacrifier la vertu de leur fille à leur bien-être. Là-dessus, ils se mirent à torturer l'altière jeune fille de toutes manières imaginables, si bien qu'ils lui inculquèrent l'idée qu'elle foulait tout son bonheur aux pieds. Certains matins, le baron venait de terminer son premier déjeuner, et assis dans un fauteuil de son élégant hôtel, vêtu d'une robe de chambre de velours bleu tirant sur le violet, un fez posé sur la tête, il fumait une longue pipe turque qui, vu son accoutrement, lui donnait l'air d'un pacha. Il envoyait à droite et à gauche la fumée du tabac, qui, s'élevant en l'air, formait maintes spirales et figures bizarres, et cependant songeait à sa platonique odalisque, la belle Anna. Soudain, il perçut comme le frou-frou d'un vêtement de femme, et, tournant vivement la tête, il vit Anna Klauer en personne devant lui. C'était la première fois qu'elle franchissait le seuil de sa demeure. Quelque chose d'extraordinaire devait être arrivé, d'autant plus que, pour la circonstance, elle avait pris la peine de s'envelopper d'un voile épais. Comme elle découvrait son visage, le baron la contempla avec surprise. En grande dame consommée, elle le considéra de la même façon. Autour de sa taille mince et élancée, tombaient les longs plis éclatants d'une robe de velours noir. Une jaquette entr'ouverte, de même étoffe et bordée d'une coûteuse zibeline, laissait deviner ses superbes formes de jeune fille. Un chapeau de velours noir, garni d'une longue plume blanche, complétait sa toilette. À sa main finement gantée, elle portait un manchon également de zibeline. Alors qu'elle allait et venait d'un pas rapide par la pièce, elle laissait voir de temps à autre son admirable petit pied, chaussé de bottines de velours noir, rehaussé d'étroites bandes de fourrure de zibeline. Ils restèrent longtemps l'un et l'autre sans échanger une parole. Le riche aristocrate, de même que la pauvre ouvrière, sentait bien qu'ils étaient tous deux arrivés à une grave et dangereuse crise de leur vie. Le premier, Steinfeld, rompit le silence après s'être levé et avoir offert un fauteuil à Anna. « Et que désirez-vous de moi, chère Anna ? » fit-il. « Votre visite m'effraie presque. » « Ma visite vous effraie ? » s'écria la belle jeune fille d'un ton presque courroucé. « Vous m'aimez encore, n'est-il pas vrai ? Ne me l'avez-vous pas juré plus de 100 fois ? Ou bien ne m'aimez-vous plus ? Parlez !» Elle frappa du pied d'impatience. « Mais si je vous aime, répondit le baron en s'approchant d'elle, je vous adore et je n'ai pas d'autre désir que d'être à jamais votre esclave. » Il s'agenouilla devant elle et pressa sa main sur ses lèvres brûlantes. Anna lui lança un long et étrange coup d'œil. « Aujourd'hui tes désirs se trouveront comblés, fit alors la belle fille. Je veux être ta herrin. Tu sais ce qu'en français l'on appelle maîtresse. » Et là-dessus, elle partit d'un petit éclat de rire sinistre. « Je ne vous comprends pas, Anna, » reprit le baron, toujours couché à ses pieds. « Oh, vous allez certes me comprendre, » dit la belle fille. « Il y a longtemps que mes parents me reprochent de manger leur pain au lieu de me livrer à un riche adorateur. Et ils m'ont aujourd'hui menacé de me chasser si je ne les écoutais pas. Quant à moi, comprenez-moi bien, je suis trop fier pour conclure un pareil marché. J'ai jeté aux pieds de mes parents les diamants que vous m'avez offerts, puis m'étant ainsi acquitté, j'ai pour toujours quitté leur demeure. Je me suis rendu auprès de vous parce que... Elle s'arrêta, les sanglots étouffaient sa voix. Parce que je vous aime. Je vous appartiens. Prenez-moi quand vous voudrez, si vous m'aimez encore. Grand Dieu, s'écria Steinfeld, mais vous me rendez aujourd'hui le plus heureux des mortels. Il se leva et en serra de ses bras la belle et superbe fille en un transport de tendresse. Elle resta muette et incapable d'exprimer la moindre volonté. Il la transporta sur un canapé, lui enleva son chapeau qu'il jeta dans le premier coin venu, il dénoua sa superbe chevelure, puis, embrasé de désirs passionnés, lui arracha la fourrure qui couvrait son admirable gorge. Elle fut à lui. Le jour même, il lui choisit, dans la Ringstrasse, une demeure meublée avec le luxe le plus raffiné. La pauvre ouvrière reposa dès lors dans des draps de damas et des édredons bordés de dentelles de Bruxelles, et dès le lendemain, se levant, vêtue seulement de ses pantoufles ornées d'or et enveloppant son superbe corps d'un peignoir princier, sinon royal, ses pieds mignons reposèrent sur un tapis de Perse, et si vous aviez été dans sa loge à l'opéra, vous eussiez vu briller et scintiller 1 000 diamants à son cou, sur sa tête et ses oreilles. Le baron était devenu son esclave. Tout ce qu'elle ordonnait était exécuté avec plaisir. Si son humeur le voulait, il se mettait à ses pieds comme un esclave, comme un chien. Les parents de la belle enfant se rapprochèrent alors d'elle. Elle les fit chaque fois éconduire par les domestiques. 2 années se passèrent ainsi. Mais dès la 3e année, son adorateur devint de plus en plus froid. Il entretint des obligations que lui créait son grand nom, et finalement confessa à sa bien-aimée que sa famille voulait le marier. Un certain soir, Anna, se trouvant à l'opéra, sans l'idée de l'y rencontrer, le vit en compagnie de 2 dames. Elle apprit que l'une d'elles, la plus jeune, une délicate et presque chétive jeune fille blonde, était sa fiancée. En outre, une dame qui occupait une stalle proche de la sienne lui apprit que la personne en question était une certaine comtesse Thurn, douée d'une immense fortune. Anna en savait assez. Avant l'acte suivant, elle quitta le théâtre. Comme la représentation était terminée, le baron vint, comme d'habitude, prendre le thé chez Anna. Cette dernière l'enveloppa d'un regard sinistre. Non, tu as fort bon goût de venir me trouver alors qu'à l'instant même tu viens de quitter ta bien-aimée, ta fiancée. Fais choix entre elle et moi. Mais qui t'a dit ça? Fit le baron Steinfeld, les joues empourprées. On ne ment pas, je t'ai vu à son côté, dit-elle d'un ton d'acier. Mais tu m'espionnes aussi, s'écria-t-il. Tu suis mes pas, et je te trouve sur mon chemin pour me compromettre. Mais je pense que jusqu'ici, si quelqu'un a compromis quelqu'un ou quelqu'une, c'est toi. Misérable, fit-elle avec feu. Mais n'es-tu pas venue de ton plein gré vers moi? Répondit le baron. Ne t'es-tu pas offerte? Si je ne t'avais prise, le plaisir eût été pour un autre. Les filles de ton espèce sont toujours prédestinées ainsi. Fort bien, dit-elle péniblement. Obéissant aux lâches convenances de votre société, vous me trahissez et m'abandonnez. Vous me méconnaissez. Je ne suis pas femme à supporter pareil outrage. Si tu fais du scandale, dit froidement le baron, je me verrai forcé de t'interdire ma porte. C'en fut trop. pour la nature endiablée et l'indomptée de la pauvre créature. Oh, mais je me moque de ton argent et de toutes tes richesses. Quitte cette maison sur l'heure, fit-elle avec emportement. Songe bien à ce que tu fais, murmura le baron. Dehors, allez, disparaît de ma vue, ordonna-t-elle, les lèvres frémissantes. Puis, comme cela ne lui était jamais arrivé, elle le poussa dehors, le poing fermé et menaçant, comme pour le frapper. Chapitre 3. Le premier pas. Il s'éloigna là-dessus et disparut. 4 mois plus tard, de bon matin, une dame de mise élégante et semblant attendre quelqu'un faisait les 100 pas devant la maison de la Kölnerstrasse où habitait le baron. Comme le baron Steinfeld sortait de son hôtel, cette dame, soigneusement voilée, s'approcha rapidement de lui et lui dit « Me connais-tu ? » « Oh, ne me faites aucune scène dans la rue, je vous en prie !» fit le baron d'un ton bref. « Mais alors que tu me fais chasser par tes valets, je n'ai plus qu'à te contraindre d'écouter en pleine rue les tristes choses qui me pèsent à dire. Non, ce n'est point ici un lieu d'entretien. « Accompagnez-moi chez moi, » fit-elle. Ces deux êtres qui, jadis, s'étaient passionnément aimés, cheminaient actuellement côte à côte, froids et muets. Toujours, sans mot dire, ils gravirent l'un et l'autre l'escalier menant à la demeure d'Anna. Cette demeure qui, autrefois, avait été leur paradis. Le baron jeta autour de lui un regard de surprise. Il reconnaissait à peine ces lieux qui, cependant, lui avaient été assez familiers, où Anna Klauer habitait encore alors que lui-même les avait désertés depuis près d'une année. Les tableaux et les miroirs de prix avaient disparu des murs. Les pièces étaient vides d'une partie de leur luxueux ameublement. La maîtresse abandonnée les avait vendus pour ne pas se vendre elle-même ou pour ne pas mendier. Car après 3 années durant mener la vie d'une princesse, le travail lui semblait aujourd'hui dégradant. Pénétrant dans sa chambre à coucher, d'un nonchalant signe de main, elle invita le baron à l'y suivre. Puis, s'installant sur un canapé turc dont le luxe rappelait sa splendeur passée, elle l'y fit également asseoir. Elle rejeta alors le châle coûteux dont elle était enveloppée. Elle lança ensuite au baron un coup d'œil perçant qui le fit changer de couleur. Il pâlit. Baissant les yeux, elle reprit. « Je sens que je suis sur le point d'être mère. Dans toute autre circonstance, je n'eusse pas cherché à te revoir. Mais aujourd'hui, j'ai des devoirs à remplir envers mon enfant et moi-même. Tu en as aussi envers nous. » Aussi bien ne puis-je penser, ne puis-je souffrir, que tu m'abandonnes en cet état, que tu nous laisses l'un et l'autre dans la détresse. Des larmes perlèrent à ses yeux. Calme-toi, dit le baron, lui saisissant la main. J'ai toujours eu soin de toi, tandis que tu ne m'as pas éconduit. Aujourd'hui, je me sens encore plus obligé à te venir en aide. Oui, je vais te choisir une belle demeure quelque part dans les environs, te constituer une rente et t'en verser les arrérages. Est-ce là tout ? Demanda Anna d'un ton froid. Mais ne conçois-tu pas ce que tu me dois ? Ce n'est pas ton or, c'est toi que je veux. Moi ? Oh, je cesse de te comprendre. Mais c'est ton devoir de m'épouser. « Mais à quoi penses-tu ? » s'écria le baron en s'emportant. « Mais que dirait ma famille si je prenais une fille d'ouvrier pour femme ? » « Et tu as bien trouvé bon de séduire cette fille d'ouvrier, d'en faire ta maîtresse. Et ta famille n'a pas trouvé à redire que tu baises les pieds de la pauvre ouvrière sous lesquels elle te foulait ?» s'écria à son tour Anna. « Tu es inhumaine, reprit le baron. Je t'en conjure, dit Anna en pleurs. Sauve mon honneur, sauve notre pauvre enfant. Tu peux encore agir en honnête homme. Je serai pour toi une épouse fidèle, obéissante et tendre. Ce que ne sont jamais toutes tes princesses ou comtesses. Ne m'abandonne pas, ne me rends pas malheureuse. Ne me relègue pas au rang du vice. Je suis fier, je ne me laisserai pas trahir. Je ne le souffrirai pas. Je ne crains pas ta vengeance, fit le baron. Et là-dessus, il se leva. Puis, soulevant son chapeau avec un sourire dédaigneux, il ajouta « Mais je maintiens ma promesse de pension en dépit de tes folles menaces. Tu connais mon adresse. Quand tu auras besoin de moi, écris-moi. »«
Mais est-ce là ton dernier mot ?»«
Oui. »«
Alors va, sors d'ici. Je préfère mourir de faim et de froid ou voler et mourir plutôt que de t'être à l'avenir redevable de quoi que ce soit. » Fût-ce même d'une simple bouchée de pain, cria-t-elle d'un ton vibrant. Néanmoins, songe à ce moment. Quant à moi, je ne l'oublierai jamais.
Ils se tournèrent le dos et le baron Steinfeld s'éloigna lentement, sans aucun sentiment de honte ni de regret, envers la malheureuse qu'il trahissait ainsi. Quoi qu'il en soit, ce fut sans retour. Quelques jours plus tard, il menait à l'hôtel la comtesse Thurn, et la cérémonie terminée, alla passer à Paris la lune de miel en compagnie de sa pauvre jeune femme. Le jour même de son entretien avec son père finamment, Anna Clauer vendit le reste de son mobilier et tous ses bijoux. Elle conserva néanmoins ses coûteuses toilettes non sans dessein précis. Le produit du tout lui rapporta la somme considérable de 60 000 gulden. Elle se trouva ainsi à l'abri de tout besoin. Puis elle alla s'installer dans une petite demeure des environs de Luxembourg et s'y enferma en attendant le retour du baron à Vienne. Mais cette fois les événements furent plus forts qu'elle. Elle ne put mettre son plan à exécution. Et tout tourna autrement qu'elle le désirait, qu'elle l'avait pressenti. Un de ses anciens serviteurs, qui se trouvait encore en service, avait entrepris de surveiller les allées et venues du baron Steinfeld. Or, le jour même où elle ressentit les premières douleurs, ce serviteur vint lui apporter la fatale nouvelle que, provisoirement, le traître ne rentrerait pas à Vienne, mais passerait le reste de l'été dans un château du sud de la Bohême, appartenant à sa femme. Cette nouvelle venait à une mauvaise heure. Au moment décisif, l'infortunée se fit violence à elle-même et fit le premier pas terrible dans la voie du crime, avant même de se rendre exactement compte des effrayantes conséquences que pouvait avoir son acte. Comme le soir tombait, son pauvre cœur altier n'eut qu'une pensée, cacher sa honte au monde. Jusque-là, elle était parvenue à dissimuler à tous ses gens le véritable état dans lequel elle se trouvait. Mais désormais, elle pouvait à toute heure se trahir. Elle prit donc rapidement son parti, s'enveloppa dans un châle, puis se rendit dans le parc de Luxembourg, où elle se cacha dans l'obscurité. La nuit vint, une nuit noire, sans étoiles. Muette, navrée et complètement désespérée, n'exhalant aucune plainte, Anna Clauer s'étendit dans un obscur buisson de sapins, ne poussant aucun cri qui pût déceler sa présence. La force de caractère de cette infortunée était telle qu'au milieu des plus grandes souffrances, elle ne laissa échapper aucun soupir, ne versa aucune larme. Quand enfin elle tint son nouveau-né dans ses bras, elle étouffa son premier vagissement à l'aide de son mouchoir, et contrairement à toutes les mères, ne fut pas remplie de joie à la vue du pauvre innocent. Réunissant toutes les forces qui lui restaient, Elle se traîna péniblement, avec une énergie sauvage, jusqu'au bord de l'étang voisin, et presque inconsciemment, il laissa glisser l'infortunée. Puis elle se mit à pleurer amèrement. Une heure plus tard, elle rentra chez elle. Personne ne put se douter, à sa mise ou à sa mine, qu'elle venait de faire autre chose que sa promenade habituelle. Le jour suivant, elle emballa tous ses effets, revint à Vienne, et quittant cette ville le soir même, se rendit à Budweis dans le dessein de rechercher le baron sur ses terres de la frontière austro-bavaroise. Elle allait, poussée par quelque fatale et occulte puissance, elle ne savait tout. Un hasard vint à son aide. Dans la petite auberge de Budweis, où elle était descendue, se trouvait une colporteuse hongroise à l'article de la mort. Une petite fille et un garçon en bas âge pleuraient et se lamentaient au chevet de leur pauvre mère. Anna Klauer fit accepter ses soins par la pauvre femme et demeura auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle eût rendu le dernier soupir. Elle lui ferma les yeux, puis s'empara de tous ses papiers et même du passeport qu'elle alla, comme si c'était le sien propre, faire viser au bourgmestre. Finalement, elle prit soin d'assurer le sort des pauvres orphelins et laissa pour eux, entre les mains du maire, la jolie somme de 1000 gulden. Dès lors, elle se dirigea vers le château du baron, laissant derrière elle ses bagages au nom de Sarota Kulisecki, le nom de l'infortunée colporteuse de Munich. Elle loua ensuite une carriole qui la conduisit à Goldrain, site du château même où Steinfeld et sa jeune épouse habitaient. À une centaine de pas à peine de ce château se trouvait un village. Elle descendit de voiture devant l'auberge et renvoya le voiturier après l'avoir réglé. Alors que, dans la salle commune, elle prenait le café, elle adressa à l'hôtelier une question qui déroutait provisoirement tout le plan qu'elle avait tramé contre le baron et le réduisait à une simple promenade. En effet, elle se rendit par les champs du côté opposé au château, mais arrivée à une grande route, revint vers celui-ci. Le crépuscule tombait comme elle s'approchait de ce dernier, si bien que, sans difficulté et sans être observée, elle put parvenir devant une grande terrasse qui, de la salle à manger, donnait sur les jardins remplis de bouquets d'orangers et de citronniers au milieu desquels elle était encadrée. Légèrement, Anna gravit les degrés de cette terrasse, d'où, cachée par le feuillage d'un oranger, elle put découvrir tout ce qui se passait dans la salle. De lourds soupirs soulevèrent sa poitrine lorsqu'elle aperçut l'homme jadis bien-aimé, aujourd'hui détesté, aux côtés de sa jeune femme merveilleusement vêtue et étincelante de bijoux. Ils prenaient le thé ensemble et il la caressait et la lutinait tout en la servant, tandis qu'elle lui souriait tendrement. Alors le démon de la haine qui sommeillait dans le cœur d'Anna s'éveilla subitement. Elle tira de sa poche deux pistolets dont le baron lui avait jadis fait cadeau et les arma. Et au moment même où la baronne offrait ses lèvres pourpres au baiser de son époux, Anna, à travers la fenêtre grande ouverte, fit vivement feu du premier sur elle, du second sur son ex-amant. Elle vit alors le baron Steinfeld tomber lourdement sur le plancher, puis d'un bond de tigresse, elle s'enfuit à travers le parc, puis gagna la lisière d'un bois voisin. Arrivée sur une colline, elle prêta l'oreille et, comme tout était tranquille, elle arma de nouveau ses pistolets. Oh, elle était décidée à tout. Après s'être reposée quelques instants, elle reprit sa course, en proie à deux pensées absorbantes. La première était « Je l'ai tué, je me suis vengé, La seconde, je vais me sauver et commencer une vie nouvelle, une vie ayant pour règle la haine de l'homme et l'égoïsme.